Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Emmanuel Macron est en Chine, c'est sa première visite en tant que président sur le continent asiatique et ce n'est pas un hasard évidemment. S'il a choisi la puissance majeure du continent, celle qui compte et qui comptera de plus en plus démographiquement, économiquement bien sûr, mais aussi diplomatiquement et militairement. Et la première chose que le président français ait dite en arrivant à Xi'an, ancienne capitale chinoise, et il l'a répété à chaque étape, c'est qu'il souhaitait que la relation entre la Chine et la France et au-delà l'Europe soit équilibrée. La France et la Chine peuvent-elles parler d'égal à égal dans une relation équilibrée? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Marie-Françoise Renard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'université Clermont-Auvergne et spécialiste de l'économie chinoise et auteur de L'économie de la Chine. C'est aux éditions La Découverte et c'est à paraître cette année. Et Alice Ekman, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes responsable des activités Chine à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et auteur de La Chine dans le monde, apparaître en février aux éditions du CNRS. D'abord, avant de comprendre vers quoi Emmanuel Macron veut aller, c'est-à-dire une relation équilibrée, il faut bien se rendre compte que la relation, eh bien, elle est justement déséquilibrée, que ce soit démographiquement, c'est évident, économiquement, et surtout peut-être commercialement, puisque c'est avant tout de cela dont il s'agit. La balance commerciale entre les deux pays est très favorable aux Chinois, Marie-Françoise Renard.
Oui, alors elle est très favorable aux Chinois parce qu'ils ont des produits qui correspondent à la demande française et donc ils ont exporté, comme dans le monde entier, des biens de consommation et la balance, elle est déséquilibrée. Alors évidemment, on ne va pas changer les choses comme ça parce qu'on ne rééquilibre pas, on ne peut pas décider de rééquilibrer une balance commerciale. Et donc je pense qu'en fait, il y a d'autres enjeux, même si on parle surtout de ce déséquilibre-là.
Alors pourquoi Emmanuel Macron insiste-t-il tant sur l'équilibre de cette relation? Quelles craintes semble-t-il avoir pour vous, Alice Ekman?
Alors équilibre, vous avez raison, mais Emmanuel Macron a lâché le mot réciprocité. Il a osé dans son discours d'ouverture à Xi'an, un discours cadre, c'est-à-dire l'accès au marché chinois pour les entreprises étrangères, y compris françaises, est beaucoup plus difficile que l'inverse. Il est plus facile pour l'entreprise chinoise d'accéder au marché européen. Et donc c'est ça que Emmanuel Macron aimerait travailler, aimerait, c'est ce rééquilibre que Emmanuel Macron a en ligne de mire. C'est pas évident pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, ils ont annoncé, les deux présidents a annoncé à l'issue de la conférence de presse qu'il y avait des ouvertures dans certains secteurs, par exemple l'accès pour le bœuf français dans le marché chinois ou certains secteurs de l'agroalimentaire.
Qui est sous embargo en fait.
Voilà, donc dans les 6 prochains mois, il devrait y avoir une évolution dans ce secteur, mais ça ne résout pas tous les problèmes. De manière générale, l'économie chinoise est très centralisée, très planifiée. Le rôle de l'État dans l'économie demeure extrêmement fort. Il ne faut pas oublier aussi l'héritage historique, idéologique qui cadre la planification économique chinoise. Et dans ce contexte-là aussi, les entreprises françaises et européennes se plaignent souvent du problème de l'opacité et de l'accès à l'information. Et surtout, il est indispensable d'entretenir de bonnes relations avec le pouvoir chinois, avec les institutions publiques, dans un contexte où la campagne anticorruption a été menée de vaste ampleur sur l'ensemble du territoire chinois, qui a des conséquences sur la façon dont les entreprises accèdent au marché.
Marie-Françoise Renard, la centralisation, le dirigisme de l'économie chinoise, c'est ça qui pose véritablement problème pour accéder au marché. C'est plus facile avec une économie libérale ouverte d'accéder au marché européen et français, par exemple.
Oui, en fait, l'économie chinoise, elle est contrôlée. Et surtout, je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue que la stratégie internationale de la Chine vise à servir ses intérêts internes. Et donc, elle va prendre un certain nombre de mesures, par exemple pour limiter ses capacités excédentaires, pour investir à l'étranger à un moment où cela va sembler son intérêt parce qu'elle est moins compétitive en matière de commerce international. Donc, elle vise toujours à servir ses intérêts et contrairement à ce que disent certains naïfs, ce ne sont pas des relations gagnant-gagnant. Et donc, je crois que plus que l'équilibre, un équilibre de balance commerciale que l'on n'aura pas de toute façon, il faut viser à de la réciprocité. Et je crois que Emmanuel Macron l'a souligné plusieurs fois, et aussi le Premier ministre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un discours un peu à deux voix dans cette visite en Chine.
Le ministre de l'économie notamment,
oui,
d'ailleurs.
Oui. Voilà, le ministre de l'économie, pardon, qui a aussi fait un certain nombre d'interventions sur ce sujet, pour dire qu'en fait, il ne faut pas laisser la Chine piller la France ou piller l'Europe, et donc il faut être vigilant justement en demandant de la réciprocité.
Il y a une question qui a été abordée effectivement par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, pendant ce voyage, c'est la question des investissements chinois dans le monde et en particulier en France. C'est un point d'achoppement des relations à Alice Ekman.
Oui,
les Chinois rachètent tout ce qui peut les intéresser en France actuellement.
En tout cas, il existe un débat assez vif en Europe, en France, mais aussi à Bruxelles, concernant les investissements chinois dans des secteurs considérés comme stratégiques, à forte valeur ajoutée, concernant l'innovation, la recherche, mais aussi des infrastructures de transport, des infrastructures énergétiques, comme par exemple la Chine investit.
Il s'agit d'acheter du transfert de technologie quelque part en quelque sorte.
D'acheter une marque, d'acheter du savoir, d'acheter des technologies ou tout simplement d'acheter des infrastructures qui ont un usage civil, mais à terme pourraient éventuellement, alors là c'est des suppositions, hein, le point d'interrogation reste là, c'est pas des confirmations, mais pourraient avoir un rôle géostratégique, voire militaire. Par exemple, l'investissement chinois dans plus d'une dizaine de ports du bassin méditerranéen pose des questions à des ministères de la Défense de plusieurs pays de l'Union Européenne.
Vous pensez par exemple au rachat de la moitié du port du Pirée, ça pose question
en
ça, soit sur le plan militaire.
En fait, en soi, ponctuellement, un port concerné, ce n'est pas un problème. Après, c'est une question de souveraineté, c'est un choix de la Grèce. Après, c'est la stratégie coordonnée sur plusieurs ports qui pose des problèmes. Qui suscite des questionnements. À terme, c'est la mise en réseau d'investissements dans différents types d'infrastructures potentiellement stratégiques, donc ports, aéroports, autoroutes. Cette mise en réseau, à terme, elle pourrait restructurer pas uniquement l'architecture logistique de l'Europe, mais aussi à terme avoir des usages militaires.
Alors, ce que vous évoquez, ça fait partie du projet de route de la soie. C'est des investissements dans les infrastructures de transport pour connecter la Chine au monde entier. Ça va peser dans les années à venir des centaines de milliards de dollars. Est-ce que c'est une opportunité pour la France, Marie-Françoise Renard ?
Alors, ça peut être une opportunité pour la France. C'est aussi un projet qui est un peu inquiétant. Il est pour l'instant très général. Il a des objectifs qui sont très clair pour la Chine, c'est d'assurer son indépendance énergétique, de lui permettre de valoriser son avantage comparatif dans les infrastructures, ce qui n'est pas nécessairement l'intérêt de la France, et aussi, de façon quand même marginale par rapport à ces deux points, de soutenir l'internationalisation de sa monnaie, qui est aussi un des objectifs de la Chine. Alors c'est un énorme projet qui permet à la Chine d'avoir des objectifs à la fois économiques et politiques, de traverser par de très nombreux moyen cette province du Xinjiang qui est très contrôlée par la Chine. Et ce projet souligne le fait qu'en Europe, il y a deux voies, on parle à deux voies, on pourrait dire, entre l'Europe la plus riche et l'Europe la plus pauvre. L'Europe la plus pauvre a besoin des investissements chinois, notamment dans les infrastructures, et l'Europe la plus riche peut craindre les transferts de technologies et puis certains investissements, comme l'a dit Alice, dans des secteurs stratégiques, mais aussi les achats de terres, etc., qui sont d'autant plus inquiétants qu'ils se sont faits presque sans contrôle. En tout cas, les Chinois ont très bien su contourner les contrôles, et évidemment, c'est loin d'être le cas si on veut, nous, investir en Chine.
Ce projet de route de la soie, Alice Ekman, alors si je comprends bien ce que dit Marie-Françoise Renard, on hésite un petit peu, opportunité ou menace, quoi.
Oui, la Chine ne soutient pas directement le projet, même si Emmanuel Macron et d'autres responsables français ces dernières années ont dit que la France était disposée à participer au projet. Il n'y a pas eu de soutien formel lors du forum de mai dernier à Pékin organisé par la Chine, le forum donc sur les routes de la soie. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, en tout cas dans son discours d'hier, parle de route à double sens. Donc en fait, il remet sur la table la question de la réciprocité et aussi d'ouverture d'échange, une route de l'échange, c'est-à-dire à quelles conditions ce développement des infrastructures doit-il se faire. Selon quelles normes, puisque la Chine souhaite promouvoir des normes, des règles et des standards
qui lui sont propres.
Selon quelles normes, selon quelles règles, la règle des règles diffusées par la Chine ou des règles du marché haute de certains projets, et selon quelles priorités. Parce qu'au départ, les routes de la soie telles que lancées et proposées par la Chine et présentées dans les plans d'action, par exemple le plan, Xi Jinping l'a lancé en automne 2013, mais le plan d'action a commencé à clarifier les choses en 2015, c'était principalement des infrastructures dures, on va dire, donc transport, télécommunications, énergie. Mais aujourd'hui, on voit une extension du projet à tous les domaines. En tout cas, c'est comme ça que la Chine communique, à des domaines tels que la culture, l'éducation, le big data et les nouvelles technologies. Dans ce contexte-là, il y a vraiment des différences de vue et de définition entre la Chine et l'Europe pour les projets de coopération.
Mais parce que quand on maîtrise les normes et les tuyaux, quelque part, eh bien, on maîtrise l'ensemble du système. Autre question, Marie-Françoise Renard. Moi, j'ai lu en préparant ce débat, mais ça venait de sources diplomatiques françaises, hein, que les Chinois avaient extrêmement insisté pour qu'Emmanuel Macron vienne le plus vite possible après son élection. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Emmanuel Macron suscite de l'intérêt du côté de Xi Jinping?
Alors, écoutez, là, il faut être clair. La France est un tout petit pays pour la Chine. Donc, je pense qu'on ne pèse pas beaucoup pour l'économie chinoise. Les Chinois se sont intéressés à l'élection d'Emmanuel Macron, ça c'est sûr. Moi, j'ai passé le mois de juillet à Pékin et les gens parlaient beaucoup d'Emmanuel Macron et du nouveau président français parce que c'est un changement, parce qu'il est jeune, etc. Et je pense que l'intérêt du message, c'est de profiter, enfin, du message que le président français a donné en Chine, en tout cas ces jours-ci, c'est de profiter d'une relative faiblesse ou en tout cas difficulté des relations de Donald Trump avec Xi Jinping, de profiter de la faiblesse politique actuelle d'Angela Merkel pour que la France apparaisse comme le leader d'une Europe qui doit absolument être unie. Et le message d'Emmanuel Macron, c'était de dire « Je parle, si je l'ai bien compris, je parle au nom de l'Europe, il faut que l'Europe soit unie et on va pas donner un blanc-seing à la Chine. »
Alors, Alice Ekman, vous vouliez rebondir là-dessus. Emmanuel Macron, pour la Chine, c'est un point de stabilité, un interlocuteur pour l'Europe, c'est ça ?
Oui, enfin, je voulais surtout rebondir sur le fait que la France est un tout petit pays pour la Chine. J'apporterai une nuance. La France, factuellement, n'est pas un tout petit pays et la Chine en est consciente. Cinquième puissance économique mondiale. Elle siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour la Chine, c'est un point important. Ils ne sont pas beaucoup, hein, ils sont 5 membres. C'est une puissance nucléaire. C'est aussi une puissance multilatérale qui est très active dans les instances multilatérales existantes, mais qui organise maintenant, surtout sous l'initiative d'Emmanuel Macron, de plus en plus de forums multilatéraux. Il y a eu le One Planet Summit sur les questions environnementales. Il va y avoir des forums qui vont émailler l'année 2018, notamment sur le financement du terrorisme. Il y aura d'autres forums de sécurité. La France demande aussi le soutien de la Chine pour le financement du G5 Sahel, pour maintenir la stabilité dans la région. Donc, il y a énorme. La France est quand même très active. Elle a aussi un des plus grands réseaux diplomatiques du monde. Sans crier cocorico, sans être surestimé les capacités de la France, la Chine est quand même consciente de tous les éléments que je viens de souligner.
Il y a une forme de complémentarité, presque, c'est ce que
Non, mais la Chine connaît bien l'Europe aujourd'hui, mm-hmm. puisqu'il y a des think tanks et centres de recherche qui analysent en détail à la fois le fonctionnement de l'Union européenne, mais aussi les calendriers politiques et la situation politique des États membres. Elle connaît bien la situation en France, elle connaît bien son poids à la fois dans l'économie mondiale mais dans la diplomatie. Elle connaissait par contre peu Emmanuel Macron, pour rebondir aussi sur votre question, c'est-à-dire qu'elle avait finalement assez mal préparé son élection, mais comme beaucoup, c'est propre à la Chine, son élection a surpris, parce que la Chine crée des liens entre beaucoup de parties du monde, parce qu'elle a une diplomatie aussi de parti à parti, c'est la tradition communiste de la Chine. Elle entretient des liens avec les partis de gauche et de droite en France, mais En Marche étant nouveau, elle avait peu de connaissances. Donc elle essaye aussi de rattraper le retard pour mieux comprendre à qui elle a affaire, à quel mouvement, et la Chine compte à inviter plus de 15 000 représentants étrangers dans les 5 prochaines années, donc de plus en plus de parlementaires vont se rendre en Chine.
Marie-Françoise Renard.
Oui, je pense que la France a un rôle à jouer au niveau diplomatique, mais la Chine veut utiliser la France et l'Europe pour ne pas être en vis-à-vis avec les États-Unis et avoir d'autres partenaires, même si, ne l'oublions pas, ses principaux partenaires sont les pays d'Asie. Mais il ne faut pas oublier non plus que la Chine fait beaucoup de lobbying à Bruxelles et qu'elle joue sur les divisions de l'Europe. Et là-dessus, je ne suis pas sûre qu'au bout du compte, la vision d'Emmanuel Macron soit la même que celle de Xi Jinping, parce que la vision d'Emmanuel Macron, c'est de dire on doit avoir une Europe unie et forte. Alors peut-être que la France va essayer d'en prendre la tête, mais dans tous les cas, il défend un point de vue européen, alors que la Chine a plutôt intérêt à ce que l'Europe manifeste ses dissensions. En tout cas, les Chinois utilisent beaucoup les dissensions entre les pays européens et encore une fois, font beaucoup de lobbying à Bruxelles, où ils sont très présents.
Alors, il y a une question, puisqu'on est sur RFI, que je voulais vous poser, c'est la question de l'Afrique. Est-ce que la Chine a besoin de la France en Afrique, Alice Ekman?
Déjà, la Chine...
Et là, on parle évidemment d'exploitation des matières premières, etc.
La Chine est consciente que la France dispose d'une expertise, d'une présence et d'une influence en Afrique francophone, traditionnellement, historiquement,
tout le précaré.
La connaît. On ne va pas parler dans ces termes, mais disons que la Chine est consciente de ses lacunes sur le continent, à la fois linguistique, culturelle, de compréhension, anthropologique, des choses, et peut-être aussi de ses lacunes aussi en termes de responsabilité sociale et environnementale, quand on regarde la stratégie de certaines des entreprises, et aussi de ses lacunes en termes d'évaluation du risque. Elle a parfois perdu de l'argent sur le continent, elle a parfois été décriée par certains gouvernements ou une partie de la population africaine. Donc aujourd'hui, elle espère apprendre de la France, apprendre de ses erreurs, mais aussi de ses succès. Et donc, nombreux sont les think tanks chinois et les responsables officiels chinois qui se rendent en France pour dire nous allons ensemble développer ce qu'on appelle des projets trilatéraux, une coopération tripartite, c'est-à-dire entreprises chinoises et françaises vont développer des projets sur le territoire africain. Après, il faut pas oublier que il faudrait aussi que dans l'idéal la coopération soit pleinement tripartite, c'est-à-dire en englobant davantage les partenaires africains.
Qu'elle soit à l'avantage de tout le monde. Et évidemment, Marie-Françoise Renard, cet aspect africain des connexions françaises, ça, c'est quelque chose d'important.
Oui, c'est important pour la Chine qui commence à avoir quand même des difficultés dans certains pays d'Afrique, notamment parce qu'on lui reproche de ne pas créer assez d'emplois. Et donc les Chinois qui sont critiques avec la position française sont assez demandeurs de l'expérience française. Je ne suis pas sûre qu'ils soient prêts à une véritable coopération tripartite, mais ils ont besoin de l'Afrique et ils ont besoin de sécuriser leur présence en Afrique, d'améliorer leur stratégie. Et donc ils sont demandeurs, et c'est vrai, il y a beaucoup de réflexions en Chine sur ce sujet. Il y a beaucoup de relations maintenant entre la Chine et l'Afrique, beaucoup d'aide de la Chine à l'Afrique, de paiement de bourses aux étudiants, etc., etc. Et ils sont demandeurs de l'expérience française. Et je crois que Emmanuel Macron utilise deux vecteurs pour montrer la proximité de la Chine et de la France. C'est l'aide à la lutte contre le terrorisme au Sahel et l'aide contre le changement climatique.
Alice Seckmann, les lignes rouges des Chinois. Si on veut collaborer efficacement avec les Chinois, sur quoi est-ce qu'il ne faut pas les embêter ?
Non, mais la diplomatie chinoise est finalement assez cohérente. Il y a une liste de ce qu'elle appelle les intérêts fondamentaux. On les connaît. Alors, c'est à la fois des territoires et c'est des sujets tabous en Chine. Hein. Taïwan, Tiananmen, le Tibet, dans une certaine mesure, le Xinjiang. La question des droits de l'homme. Et la Chine peut être extrêmement ferme sur ces sujets. Une rencontre, hein, on en connaît, une simple rencontre peut geler des relations bilatérales sur plusieurs années. La Norvège, on a fait les frais, d'autres pays. Donc c'est quand même, il faut bien avoir ces éléments en tête, même quand on a l'impression que les relations bilatérales sont sur de bonnes rails, elles peuvent très vite se tendre. Hein. Parfois, on décrit la diplomatie chinoise comme une diplomatie soupolée. Donc après, comment gérer ça sans non plus accorder des concessions parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes diplomatiques? Je pense qu'intéressant à analyser dans le discours d'ouverture de Macron, on va voir si ça va suivre, mais c'est ce mélange entre séduction jusqu'au bout, hein, en disant les symboles, le cheval,
les références culturelles,
et fermeté. Séduction et fermeté sur le fond, c'est-à-dire demande de réciprocité. Il parle de l'individu, l'importance de la libre pensée, de la libre expression dès son discours d'ouverture. Donc je pense qu'il a décidé de dire les choses. On va voir comment les choses évoluent dans les prochains mois, mais c'est une relation bilatérale très intéressante à analyser ces temps-ci.
Marie-Françoise Renard, en quelques mots, les Chinois et les Français, ils peuvent s'accorder, mais peut-être à condition, ce qu'on disait, de ne pas dépasser certaines lignes rouges.
Oui, les lignes rouges de ce que la Chine considère comme une ingérence intérieure. Donc je crois qu'ils ont intérêt à coopérer dans des domaines économiques qui vont faire l'objet d'une demande chinoise en raison de l'évolution du modèle et donc qui peuvent servir les intérêts de la France avec la limite de l'ingérence sur le fonctionnement du système.
Merci à vous Marie-Françoise Renard, merci à vous également Alice Seckmann, merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Arthur Tossou, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation ce soir, Quentin Bresson. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux de votre choix, nous sommes partout. Prochain débat, demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.